Bonjour, nous sommes le lundi 16 mars, il est 14h, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Et c'est reparti pour 30 minutes avec un talent d'aujourd'hui, mais surtout un talent de demain, un dont je vous dirai un jour avec fierté. La première fois que je l'ai entendu, c'était à la relève. Et aujourd'hui, on va parler de mère, d'enfant et de galère. Mon invité est écrivaine. Bonjour Marion Brunet.
Bonjour.
Je suis très heureux que vous soyez là. Ça fait longtemps qu'on essaie de se voir, de se croiser. Vous n'habitez pas à Paris. Ça n'a pas toujours été facile, mais l'essentiel est que vous soyez là aujourd'hui, que vous soyez là pour ce livre-là qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Il s'appelle Vanda avec un V. Pourriez-vous nous dire qui est cette Vanda ?
Alors Vanda, c'est une femme qui vit seule avec son petit garçon de 6 ans. Vanda, elle est un petit peu cabossée par la vie, elle aurait aimé être artiste. Elle est arrivée dans la ville dans laquelle elle vit, il y a une dizaine d'années. Et elle est finalement devenue femme de ménage en hôpital psychiatrique. Voilà, elle vit toute seule dans un cabanon.
Au bord de la mer. Il y a le côté un peu sordide et beau, du coup.
Ben oui,
elle
c'est l'idée.
Elle vit dans un endroit qui n'est pas très joli. Mais dès qu'elle ouvre la porte, elle est dans un des plus beaux paysages du monde, peut-être.
Oui, je pense.
Je vais lire un extrait, je vais en lire plusieurs pendant l'émission. Parce que je trouve que ça décrit très bien, en peu de mots, vous plantez très bien un décor. Et là, en l'espèce, un milieu social. Vous parlez d'Isabelle, une amie. Isabelle soupire, dit qu'ils ont passé l'âge, parle de son chômage qu'on menace de lui retirer. Parce qu'elle a refusé un job de manutentionnaire alors qu'elle est plasticienne. Ça me s'énerve en parlant de son intermittence et des dates qu'il n'a pas pu cumuler ce mois-ci. C'est chaud pour tout le monde, sauf pour Fred, qui donne des cours d'informatique dans un institut qui vient d'ouvrir. Il a même décroché un vrai contrat. Au fond, Vanda ne les connaît pas vraiment. Il sort tout droit d'un passé d'étudiante qui s'est éloigné d'année en année ou des beuveries diverses qui égrènent leur vie. Ce sont des galériens et elle partage avec eux un peu de cette marge qui ici devient la norme à force de déclin. Mais elle a toujours gardé ses distances, ce petit écran qu'il faudrait dissoudre pour que les copains deviennent des amis. Elle ne sait pas faire. Elle ne sait pas faire ou elle ne veut pas faire ?
Tout à fait. On est un petit peu entre les deux. Je pense qu'elle a des impossibilités et qu'il y a aussi des choix qui la protègent.
Elle a besoin de se protéger, le monde est hostile pour elle ?
Oui, clairement. Je pense qu'on le ressent aussi quand elle évoque Tanger et ce désir de fuite et ce besoin d'être à l'étranger aussi.
Oui, Tanger qui est une sorte de paradis, d'Éden passé ou qu'elle aurait connu.
Tout à fait,
où elle rêve de retourner, ou un peu idéalisé, avec une solidarité des gens qui s'occupent des autres.
Oui, puis elle a été prise en charge par un couple d'un certain âge qui a un petit peu incarné ce qu'aurait pu être une sorte de famille pour elle.
C'est important pour vous d'incarner un milieu social comme vous le faites dans ce livre ?
Oui.
Là, avec l'extrait que j'ai lu, qui n'est peut-être pas le meilleur, mais qui en tout cas montre bien tous ces gens qui tournent autour d'elle, qui sont ce que vous dites, des gens qui auraient pu être artistes, mais qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas voulu. Et...
Oui, mais je crois que ça m'intéresse de toute façon de parler des galériens. Ça, c'est sûr, c'est un univers qui m'intéresse plus que la bourgeoisie. C'est peut-être aussi un milieu que je connais mieux.
Pourquoi il vous intéresse plus ? Parce qu'il est plus romanesque ?
Pas seulement, parce que dans...
J'ai envie de dire, dans le galérien, il y a l'échec qui plagne, il y a des choses comme ça.
Il y a le combat aussi.
C'est des gens qui ont réussi, qui n'ont plus rien à faire.
Peut-être, mais oui, ça m'intéresse parce qu'il y a du combat, puis ça m'intéresse parce que j'ai aussi envie de parler de l'état du monde. Quand j'écris un roman, bien sûr, il y a les personnages, il y a l'histoire, il y a le récit, il y a l'écriture, mais il y a aussi l'état du monde, il y a aussi le réel, les choses qu'on a envie de dénoncer, de raconter.
Vous parlez de combat à l'instant, c'est les auteurs qui combattent sont ceux que vous aimez, alors c'est lesquels vous seriez dans une sorte de diagonale entre Jack London et Virginie Despentes ?
Oh, waouh !
Je sais pas, c'est une question. Hein.
Ah bah ouais, non, mais ça me va bien, les deux que vous citez, parfait. J'aime énormément les deux. Donc,
il y en a d'autres que vous auriez cité, lesquels spontanément, c'est peut-être pas ceux que vous auriez cités.
Si, c'est possible. C'est très difficile parce que j'ai pas pensé à cette question avant. Non. Moi, j'aime énormément Joyce Carol Oates, par exemple, c'est une de mes auteurs préférés. Et alors, moi, il y en a un très, très classique que je cite à chaque fois, ça peut paraître étonnant, mais c'est Maupassant. C'est
ouais, mais passant, voilà, c'est description d'un milieu social marginal aussi. Ouais. Au passant, il n'est pas toujours du côté des bourgeois. Il a été
pas du tout, même. Et il a une grande capacité à
connaître les paysans,
à les raconter avec des petites histoires. Il a l'air de pas y toucher en fait. Il n'est pas dans le jugement, il n'est pas dans le discours, mais par contre, son histoire va venir illustrer une injustice ou une situation révoltante. Et c'est un petit peu ce que j'essaie de faire.
Alors, Maupassant, c'était la Normandie, vous, c'est plutôt le sud.
Ouais.
Ça vous choque si je vous dis que Vanda, donc je rappelle le roman que vous venez de publier aux éditions Albin Michel, est une histoire d'amour entre une mère et son fils, un amour si fort qu'il ne peut que mal finir?
Ah non, ça me choque pas du tout.
Je sais pas, ça pourrait...
Non, je trouve ça assez juste.
Parce qu'en général, on raconte des histoires d'amour entre des adultes, et là, on sent bien qu'entre ces deux-là, c'est tellement fort. Et encore, si je retrouve les extraits, je vais lire un extrait où elle dit « Aucune théorie ne vient enrober ses abus d'amour, sa façon d'être avec son fils, ni maintenant, ni au commencement. » Elle est dans cet amour absolu qui déborde, qui...
Elle ne s'y attendait pas au départ, puisque quand je raconte le moment où on lui met le bébé sur le ventre, elle n'était pas sûre de savoir faire, parce qu'elle n'a pas forcément les outils. Mais en tout cas, elle s'y jette dans cet amour-là, et il la protège aussi. Je pense que c'est comment dire ça ? C'est pas facile.
C'est une bouée ?
Oui, d'une certaine façon.
Une sorte de bouée, puisqu'on voit la mer.
Oui, ouais, tout à fait.
Alors Noé, c'est le petit garçon, et vous écrivez de lui. Noé se détend, il s'en fout de ce que racontent les adultes, du moment que sa mère n'est ni triste, ni en colère, et surtout pas à cause de lui. Il s'approche d'elle, tire sur son bras pour lui parler à l'oreille, colle ses deux mains autour de sa bouche et chuchote contre son oreille « Je t'aime ». C'est joli, ça.
Oui, et en même temps, c'est un
petit
peu...
Il la protège quand même.
Oui, voilà, c'est un petit peu angoissant, parce que c'est le petit garçon qui se retrouve dans le rôle du protecteur et de rassurer sa mère.
Qu'est-ce qui vous intéressait, justement, l'idée de raconter l'histoire d'une maman et de son fils ?
Moi, je trouve que la relation mère-enfant, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, à laquelle je me suis intéressée depuis longtemps, que ce soit d'un point de vue plus théorique ou romanesque. Et je trouve qu'il y a des injonctions contradictoires que la société envoie aux femmes là-dessus. On leur reproche sur quelque chose et puis elles sont ou trop ou pas assez. Et j'avais aussi un petit peu envie d'incarner ça. Et Vanda, pour moi, elle incarne ça. Elle aime follement son enfant, mais en même temps, on pourrait lui reprocher de l'aimer trop ou pas comme il faut. Et en même temps, on lui donne pas les outils, elle les a pas. Et ça donne des choses finalement qui sont à la fois très belles et qui peuvent aussi être nocives.
Dans la manière dont vous l'écrivez, il le décrivait, il y a aussi quelque chose de très animal entre la mère et le fils. D'ailleurs, elle le surnomme d'un nom d'animal. Mmh. Il s'appelle mon bulot, si je ne m'abuse. Oui. Ça, c'était aussi... c'est de l'observation. Vous avez...
Oui, c'est de l'observation. Et puis, je crois que je fais assez souvent référence aux animaux. J'ai pas mal de métaphores animalières. C'est quelque chose dont je ne m'étais pas rendu compte au départ et que j'ai constaté en relisant mes textes. Et j'avoue, je trouve que quand on observe l'humain, il y a plein de petites choses qui peuvent être nourries par l'observation des animaux.
D'ailleurs, il y a une scène avec un animal, un cachalot, on n'en dira pas plus. Non, ouais. Enfin, c'est un cachalot, je crois. J'ai peur de dire une bêtise, c'est bien un cachalot.
Il a un nom technique.
Ouais,
que
c'est
j'ai
ça,
mis, mais...
c'est une sorte de méga dauphin à qui il arrive un problème. On est au bord de la Méditerranée, alors est-ce que quand on écrit ce livre-là, on y pense? La Méditerranée, c'est quand même le lieu de tous les mythes, où il y a toutes les mères, tous les enfants et toutes les combinaisons les plus effrayantes, et parfois aussi dans la mythologie. Vous avez pensé à écrire une histoire qui a une dimension mythologique? Est-ce qu'il y a de ça? Il y a une mythologie moderne dans cette histoire, entre cette mère très aimante et cet enfant qui dépend d'elle complètement et qui a une forme d'amour pur et absolu?
J'y ai pas pensé.
Bon, alors, voilà.
Mais j'aime bien le parallèle.
Parce que c'est très incarné, la Méditerranée, elle est très présente, elle est très...
Oui, d'ailleurs, je à aucun moment dans le roman, je ne précise quelle est la ville.
Oui, alors ça, je me suis demandé pourquoi, parce qu'on comprend tellement bien laquelle c'est. On se dit, mais c'est quoi cette coquetterie? Pourquoi elle ne veut pas dire que c'est une ville très connue?
Alors, c'est Marseille, bien sûr, mais
c'est à cause du feuilleton qui se passe à Marseille et que vous avez... Non, je me suis vraiment demandé si c'était à cause de
non,
ça.
Non, en
moi.
Fait, le problème, c'est que Marseille véhicule tellement de clichés. À partir du moment où on dit c'est Marseille, on pense pastis, on pense foot, on pense accent pagnolesque. Et c'est tellement de caricatures autour de cette ville que je voulais éviter qu'on pense instantanément à ces clichés-là. Et en plus de ça, je me suis rendu compte que ça me donnait une plus grande liberté géographique. littérairement. Au début, j'avais mis le nom de la ville. C'est dans un deuxième temps que je l'ai retiré. Et du coup, je m'obligeais à ce que la géographie soit juste, soit tout le temps...
Ah oui, donc là, vous avez pu inventer...
Et d'un coup, je me suis dit non, en fait, c'est pas important. Alors, il y a des moments où dans le bouquin, je cite des endroits qui sont tout à fait reconnaissables, donc on peut identifier Marseille. Mais le fait de ne pas nommer la ville, j'ai eu l'impression que ça m'offrait une grande liberté.
On parlait tout à l'heure d'animaux, mais il y a autre chose dans votre livre, c'est le bleu de la mer, le bleu du ciel, comme un décor presque le seul. C'était volontaire ça aussi comme, parce que dans votre précédent roman dont on parlera pas aujourd'hui, qui s'appelait L'été circulaire et qui était aussi très bon, qui était aussi aux éditions Albin Michel, moi j'ai plus souvenir d'une chaleur que de... C'est plus la chaleur, c'était très poisseux un peu, alors que là c'est toujours très lumineux.
Oui, même quand il fait très froid. Oui, tout à fait. Bah, y avait aussi l'idée qu'elle vive au bord de la mer. Ça, pour moi, c'était important.
Est-ce qu'il puisse s'échapper ?
Peut-être, mais en plus, c'est la Méditerranée et tous les autres lieux, d'ailleurs, dans lesquels on la retrouve, que ce soit la Corse, puisqu'il y a un passage qui se passe en Corse, que ce soit Tanger. Voilà, c'est la Méditerranée, c'est ce bassin-là, quoi.
C'est que la Méditerranée, comme disait l'autre, la Méditerranée, c'est votre Normandie à vous, puisqu'on parlait de Maupassant.
Alors... Oui, mais non. Oui, puisque je vis à Marseille depuis un peu plus de 20 ans. Mais par ailleurs, moi, je suis plus fan de l'océan et des grandes marées. Donc ça, c'est...
Ah oui, donc vous êtes au contraire de Vanda qui, elle, a fui la Bretagne.
Ouais, tout à fait.
Mais vous cherchiez quelque chose de la Méditerranée dans ce livre-là, à capter quelque chose de cet espace, que ce soit donc à Marseille, en Corse, encore une fois, où c'est, ils n'ont pas vraiment une vie de touriste avec son petit garçon, ou à Tanger.
Oui, et puis je pense que c'est... Et alors ça rejoint ce que j'ai essayé de faire aussi avec l'été circulaire, c'est de parler de ces lieux paradisiaques qui, en fait, ne le sont pas tant que ça.
En tout cas pour ceux qui y habitent.
Voilà, c'est ça. Et donc oui, c'est très très beau. Si on vient en balade, d'ailleurs, la petite amie de Simon qui vient à la fin, elle dit Chloé. Ça a quand même de la gueule. La mer, le bord de mer, la plage, l'horizon. Mais voilà, pour les gens qui y vivent, c'est pas forcément la panacée.
Comment vous avez construit le personnage de Vanda, si on revient à elle? C'est l'hiver, oui. Comment vous avez construit ce personnage de Vanda? C'est beaucoup de travail.
Oui.
Vous y passez beaucoup de temps.
J'y passe beaucoup de temps. Après, ça m'accompagne.
Alors, j'ai posé ma question autrement. C'est, vous définissez une catégorie socioprofessionnelle ou c'est une image? On a l'impression qu'il est d'abord un mouvement. Quand on lit Vanda, c'est un mouvement.
En fait, c'est des petits détails. Moi, j'aime bien m'attacher à des petits détails et à partir des petits détails, ça déroule une histoire.
Et okay, pareil, je pense que c'est ses cheveux.
Exactement. Exactement. Il y avait quelque chose avec ses cheveux et avec ce petit garçon, donc cette image en Corse, quand il a perdu son doudou et il passe sa main dans les cheveux de sa mère et ça devient une forme de doudou. Et cette image-là, elle était très importante pour moi. Et dès le début, je l'ai eu en tête et ça a participé à la constitution du personnage. Et il y avait la présence des tatouages aussi, qui m'est venue très vite en tête. Mais des fois, je ne sais pas forcément expliquer pourquoi les choses. Hein,
Ce qui m'intéresse plus, c'est comment ils sont... par quel biais vous êtes arrivé à elle, comment... Donc ça, c'est des images, les cheveux, les tatouages. C'est que dans les deux cas, c'est une partie d'elle aussi avec laquelle joue l'enfant. Parce que
tout
les tatouages aussi, il y a une scène où il joue avec ses tatouages... C'est très joli cette scène, c'est très sensuel, c'est toute la sensualité d'une mère et de son enfant. Et je ne sais pas si on va la raconter, peut-être pas d'ailleurs, les gens iront la lire.
Mais cette scène-là, pour moi, justement, elle met aussi un petit peu mal à l'aise, parce que lui, il se rend compte que c'est une forme d'intimité qu'il a eue aussi, lui, quand il était amant avec elle.
Ah oui, troisième, vous avez parlé de l'autre personnage qui s'appelle Simon.
Oui, du père de l'enfant qui est là, Et du coup, justement, le fait que l'enfant joue avec ses cheveux, avec des parties de son corps, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour moi, c'est l'histoire d'un amour abusif, quand même.
Ouais, c'est ce qu'on disait au début. Est-ce que vous aviez des références cinématographiques en écrivant ce livre? Parce qu'on pense à plein de personnages de films.
Ah oui.
Ah oui, on se dit que c'est une héroïne de Cassavetes qui s'est perdue au bord de la Méditerranée.
Oh bah c'est un beau compliment.
J'imagine que c'est des films que vous aimez.
Oui, bien sûr. Bah d'ailleurs, je cite Gloria qu'elle va voir au cinéma Rif à Tanger. Oui, puis Gloria, en plus, c'est l'histoire d'une femme avec un petit garçon, donc j'ai, évidemment que ça, c'était un clin d'œil. Mais à part cette référence-là, j'en ai pas tant que ça.
Il n'y a pas La Vanda de Barbara Loden ?
Pas du tout. Et alors ça, c'est fou, parce que j'ai découvert l'existence de ce film après, et je ne l'ai pas encore vu.
Mais non,
j'ai très envie d'aller le voir.
Pour dire la vérité, moi non plus, je l'ai jamais vu, mais j'ai tout de suite pensé. Et parce que c'est un prénom tellement rare, Vanda, je me suis demandé d'où il venait ce Vanda.
Alors j'ai...
Elle s'appelle pas Brigitte, elle
pourrait s'appeler... Non, mais j'ai hésité longtemps autour du Maud. Prénom, j'ai tourné, elle en a eu un autre pendant une partie de l'écriture, et quand Vanda est venue, qui m'a d'ailleurs été soufflée, parce qu'il faut rendre à César, je suis allée voir, est-ce qu'il y avait déjà, parce qu'on le fait ça, des fois on va voir, est-ce qu'il y a déjà un bouquin ou un film, et j'ai vu ce Vanda avec un W.
Un personnage très important dans votre roman, vous venez d'en parler il y a peu de temps, c'est Simon. Mm-hmm. C'est l'ex de Vanda, c'est le père de Noé, c'est un homme qui vient de perdre sa mère, donc qui lui-même est peut-être pas très bien comme fils, et qui à ce moment-là découvre qu'il a un fils, puisqu'en fait Vanda a eu cet enfant, lui était parti, mm-hmm. on sait pas très bien ce qui s'est passé, mais lui savait pas qu'il avait un fils, d'un seul coup il le découvre parce qu'il la revoit. On aimerait bien ne pas l'aimer, mais on n'y arrive pas parce que vous avez pas envie qu'on n'aime pas vos personnages. Et lui, vous en faites un portrait très touchant de cet homme vraiment perdu.
Bah oui, parce que je pense que c'est une situation complexe et qu'on ne peut pas être radical. Enfin, il n'y a pas... On ne peut pas être d'un côté ou de l'autre, en fait, dans cette histoire. Non, on ne peut pas être du côté de Vanda ou du côté de Simon, je pense. Alors évidemment, on est avec Vanda, donc on vibre avec elle. Mais Simon, il a aussi... on peut complètement comprendre son désir de rencontrer ce gamin dont il n'a jamais entendu parler. Je veux dire, il n'est pas parti alors qu'elle était enceinte et en l'abandonnant derrière lui. Il ne savait pas qu'il était père. Et puis il y a aussi d'autres choses que je traite avec ce garçon qui est une sorte de transfuge de classe, qui est quand même parti à Paris en fuyant Marseille pour un petit peu faire carrière, on va dire, et qui...
Oui, parce que lui, il a un rapport très compliqué à Marseille. Il l'aime, il la déteste, on a l'impression que c'est pas très bien le rapport qu'il a avec cette ville.
Oui, c'est la ville dans laquelle il a grandi, mais il la fuit aussi, parce que c'est une ville qui est pas facile, Marseille, c'est une ville qu'on peut tout à fait aimer et détester à la fois.
Vous l'aimez ou vous la détestez ?
Les deux.
D'accord. Il y a un moment, il y a un goûter, il y a une scène un goûter d'enfant. Et il y a un petit garçon qui est là, qui s'appelle Dimitri. Vous parlez de sa maman, de la maman de Dimitri. Et vous dites, elle sait ce qui est bon pour les enfants. Elle cuisine des légumes bio, elle lit des histoires à son fils chaque soir, des histoires intelligentes et subtilement éducatives. J'aime être Disney. Elle lève les yeux au ciel quand Dimitri lui demande un cordon bleu comme à la cantine. S'offusque quand elle découvre qu'il connaît des choses, mots, films, personnages qui ne viennent certainement pas de chez eux et dont elle ne veut plus jamais entendre parler. Est-ce que c'est bien clair ? D'une certaine façon, elle est déjà victorieuse. Son fils est du bon côté du manche depuis le début. Est-ce que Gloria, au fond, n'aimerait pas être un peu aussi cette mère-là ?
Gloria, vous avez dit.
Je l'ai lapsus. Ah oui, pardon, Vanda.
oui, tout à fait. C'est très ambivalent. Elle les juge, elle les rejette, mais en même temps, oui, elle aimerait bien, elle le dit, elle aimerait bien être plus douce, elle aimerait bien être plus normale.
I'm
c'était Blisses Be Curtain Call, un extrait de la playlist de Radio Campus Paris.
La relève sur Radio Campus Paris.
On est toujours avec Marion Brunet pour Vanda. Aux éditions Albin Michel, c'est votre combientième roman? Vous ne les comptez peut-être pas d'ailleurs.
C'est le septième.
C'est déjà le septième. Vous avez un style très visuel et en même temps très très littéraire, l'un n'empêchant pas l'autre. Il n'empêche qu'en vous lisant, on se dit que ça ferait un bon film. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez? Est-ce que vous, un jour, vous avez envie d'écrire des films?
Alors, ouais, j'aimerais bien, mais à chaque fois que j'ai une idée de scénar, je préfère en faire un roman. Donc voilà, c'est comme pour la BD. J'aimerais beaucoup faire de la BD aussi, mais j'ai l'impression que bon, je... pour l'instant, voilà, c'est surtout.
Mais vous êtes frustré que ça ne soit qu'un roman entre guillemets?
Non, pas du tout.
Non, vous êtes contente d'avoir déjà un roman?
Ah non, plus que ça, c'est un peu le pour moi, c'est le top.
C'est même mieux qu'un film.
Oui.
Je pense qu'un film, c'est compliqué d'arriver à avoir. En lisant, on se dit à la fois que ça ferait un film et je cherchais qui en France pourrait faire ce film et j'arrivais pas à trouver. Alors, peut-être vous avez des idées?
Ouais, je vais y réfléchir. Mais
des acteurs qui auraient ce physique-là, à part une Béatrice Dalle. Elle a quelque chose de cette sensualité de Béatrice Dalle qu'on imaginerait qu'aurait pu faire ça dans les années 80.
Alors moi j'essaie de pas trop. Alors à part les cheveux et bon là effectivement il y a des choses très précises comme les cheveux, les tatouages, mais j'essaie de ne pas trop décrire mes personnages physiquement pour que le lecteur se fasse vraiment une image à lui. Donc je décris pas vraiment je décris plus un mouvement, une intention. Et par rapport à ce que vous dites autour du cinéma, c'est vrai que j'ai tendance à essayer d'écrire par scène. Donc du coup, ça crée aussi peut-être ce mouvement de type cinématographique.
Par scène qui s'enchaîne. Donc c'est vrai que ça crée assez courte, enfin d'une dizaine de pages, je pense à chaque fois.
Ouais.
Donc vous avez un plan très construit au départ avec un scénario.
J'essaye, mais j'y arrive pas toujours. Et puis des fois, ça se modifie en cours de route. Mais j'essaie maintenant de plus me mettre à écrire tant que j'ai pas au moins un squelette d'histoire et quelque chose d'un peu qui se tient.
Si on dit que vous faites de la littérature sociale, ça vous dérange?
Non.
C'est quoi pour vous la littérature sociale? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est celle qui raconte le monde?
Ouais, complètement. Puis il y a littérature dedans. Donc,
déjà, ça c'est bien.
Voilà, et sociale. Donc bon, non, les deux, je trouve, se vont très très bien ensemble.
Là, il y a tout un passage qui se passe, tout un passage. Vanda travaille dans un hôpital psychiatrique. Vous racontez de l'intérieur, vous racontez la vie de ces personnages. Ça, c'est nourri, je pense, de votre vécu, puisque j'ai regardé votre fiche Wikipédia. Ça, pour vous, un écrivain doit raconter ce qu'il voit, ce qui se passe vraiment?
En tout cas, moi, c'est ma démarche. Je ne dis pas, il y a des tas de façons de nourrir la littérature qui est différente, mais ma démarche à moi, je crois qu'elle se clarifie de plus en plus vers ça, oui. De raconter le monde tel qu'il est, avec ses injustices, avec les luttes qui la traversent.
Ouais, d'ailleurs, là, dans le roman, il y a aussi une grève parce qu'elle est précaire et que. On a la crise de l'hôpital public aussi, l'hôpital public dans votre livre.
Oui, complètement.
Avec les manifestations, la charge des policiers.
Mm-hmm. je trouve que c'est quand même assez. C'est très actuel. Bon, ça l'a toujours été, mais ça s'aggrave. Donc oui, j'avais aussi envie de raconter ça, envie de parler de ça.
C'est toujours étonnant d'imaginer tout ce que... Enfin, quand on en parle ici en une demi-heure, ce qui est court, mais de voir tous les fils qu'on peut tirer dans un roman. C'est là qu'on voit quand un livre est riche ou pas. C'est que bon, on peut aussi bien parler d'une histoire d'amour fusionnelle entre une mère et son fils, de la différence de classe entre un garçon qui est parti de Marseille pour aller réussir à Paris, et en même temps, la crise de Pilapu. Et il y a tout ça en 220 pages.
Oui.
Comment on arrive à équilibrer et à mettre tout ça?
Je crois que ça s'est vachement basé sur les personnages, en fait. Et moi, c'est vraiment ce qui est au centre, et je démarre là-dessus, le travail là-dessus, c'est vraiment d'avoir des personnages qui sont complexes et complets, donc qui ont une histoire, qui ont des origines, et qu'elles soient familiales, qu'elles soient sociales. Et du coup, je pense que c'est toutes ces petits détails qui nourrissent et qui créent tous ces fils dont vous parlez. En effet, je parle à la fois de lutte des classes et à la fois d'amour maternel. Ouais.
Je vais lire encore un extrait parce que je trouve que ça montre bien aussi comment vous évoquez le social. Vous écrivez Elle a bien noté le nom de Thierry qui les range du même côté de Magali. Ils vont tous finir pareil à force d'être jetables. Ça fait longtemps qu'elle le sait, qu'elle compte pour rien ou pas grand-chose. Elle l'a su très tôt, vu que sa mère comptait déjà pas des masses. Et ça s'aggrave à chaque rendez-vous chez Pôle emploi. À chaque fois qu'Internet coupe au moment, elle remplit un interminable formulaire pour une demande d'aide au logement. Ça continue quand les fonds ne sont pas débloqués pour la moindre sortie scolaire et que les instituts soupirent de rage, que les immeubles des pauvres s'écroulent pendant que le centre-ville est redessiné pour ressembler à un décor. La haine se mêle à la peur. Vanda se sent au bord de l'explosion tout au bord. Qu'ils crèvent, que leur sourire cynique s'élargisse au couteau, qu'ils s'étouffent dans leur mépris, se carrent leurs millions dans le cul et qu'ils en crèvent. Voilà, c'est dit. Vous, dans sa sécheresse, votre page Wikipédia, on va parler un petit peu de vous quand même, dit que vous êtes née un jour dans le Vaucluse, que vous êtes une femme de lettres françaises, auteure de romans policiers, littérature d'enfance et de jeunesse. Est-ce que tout ça est vrai?
Ouais.
Qu'est-ce qui vous a fait quitter la littérature jeunesse pour aborder la littérature adulte?
Mais je ne l'ai pas quitté. Je ne l'ai pas du tout quitté, puisque mon dernier roman avant Vanda s'appelle Sans foi ni loi, est sorti chez PKJ en septembre, et que c'est un western féministe a priori à destination des adolescents, mais des adultes aussi. Moi, la littérature jeunesse, je l'aborde de façon assez vaste. J'écris plutôt pour ados, donc a priori la cible ce sont, on va dire, j'ai du mal avec ce mot-là, mais des adolescents. Mais mes bouquins ados actuellement sont lus, je pense, par autant d'adultes que d'adolescents.
Oui, par de jeunes adultes. Alors voilà. Qu'est-ce qui fait que vous décidez qu'un texte avait pu être publié là ou ailleurs?
Alors je crois que je suis allée en adulte aussi parce que j'avais envie d'explorer des choses qui était peut-être un petit peu plus difficile à explorer en jeunesse. C'est surtout le prisme qui change. Parce que quand j'écris en jeunesse, je me mets souvent dans la peau d'un adolescent ou d'une adolescente, alors qu'en adulte, le prisme change. Et je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus sombre et désespéré que j'explore en adulte. Et en jeunesse, je peux écrire des choses assez dramatiques, tragiques, mais j'ai envie que ce soit quand même lumineux, enfin qu'il y ait quelque chose de lumineux qui sorte de tout ça, alors que voilà, en adulte, je m'autorise.
C'est quand vous dites je me mets dans la peau d'une adolescente, sans moyen de rester adolescente vous-même. C'est la petite blague de fin. Hein.
Ouais.
Vous êtes encore très jeune,
il doit m'en rester encore un peu. Et puis de toute façon, je pense que l'adolescence est une belle période ouverte à tous les possibles et que c'est bien que ça dure encore un peu.
Je vous remercie beaucoup Marion Brunet. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Vanda, un roman qui a été publié aux éditions Albin Michel. Et juste avant de nous quitter, j'aurais juste dédié cette émission à une amie qui s'appelait Sophie. Merci. Vous venez d'écouter La Relève, elle était présentée, produite par Christophe, à la réalisation il y a des Margot. Vous retrouverez bientôt cette émission sur internet et sur le site de Radio Campus Paris, à la rubrique La Relève. Merci beaucoup, à bientôt, à la semaine prochaine.